100% d'Europe, Laurent Berthaud.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission qui parle de la vie des Européens avec aujourd'hui trop d'accouchements par césarienne à Chypre, les violences conjugales dans les séries télé turques, des potagers roms aux portes de Paris, des cantines scolaires tchèques prises en défaut sur les réseaux sociaux et un hôtel qui se chauffe au noyau de cerise en Bulgarie. À Chypre, la majorité des femmes accouchent par césarienne. L'île détient le record d'Europe et certainement l'un des taux le plus élevé au monde. Michel Picard, notre correspondant, est allé à la rencontre des acteurs médicaux pour comprendre cette tendance que certaines femmes tentent de remettre en cause malgré la pression médicale.
Face à la grande poste, sur Prodromou, l'une des avenues principales de Nicosie, le cabinet du docteur Émilie. Pédiatre installée à Chypre depuis 10 ans, elle a fait le choix d'assister systématiquement à tous les accouchements de ses patientes. Elle connaît bien les désirs des futures mamans.
Elles apprécient de savoir à l'avance qu'elles vont avoir un garçon, qu'il va peser 3,4 kg, qu'il s'appellera Andreas. Elles peuvent ainsi préparer tous les petits gâteaux, décorer la chambre. Et pour elles, c'est vrai que c'est pratique d'entendre que leur césarienne est prévue jeudi prochain, par exemple. Mais d'autres sont très déçues parce que le docteur leur avait promis de les accompagner dans un accouchement naturel.
C'est la grande question pour celles qui avaient choisi d'accoucher par voie naturelle et qui finissent par avoir une césarienne. L'opération était-elle indispensable ? Difficile de trancher, à l'image d'Erini, maman de deux enfants de 5 et 7 ans.
Pour mon premier enfant, je n'ai pas choisi la césarienne. Ce devait être une naissance naturelle. Mais à la fin, le bébé était coincé. On a fait une césarienne en urgence. Et mon deuxième enfant est arrivé trop tôt. Il a fallu de nouveau une césarienne. Après les opérations, je ne sentais plus mon ventre. Et même si je fais beaucoup d'exercices aujourd'hui, cette partie de mon corps est quasiment morte. Il faut y réfléchir à deux fois avant de se précipiter vers un accouchement sans effort.
Si la majorité des femmes accouchent par césarienne, certaines font tout pour éviter le scalpel. Stallo a même dû changer de gynécologue à 8 mois de grossesse.
C'est très rare en fait de trouver ces femmes qui ont fait l'accouchement naturellement. Ce sont aussi les docteurs qui insistent parce que ça donne beaucoup plus d'argent.
Dans le privé, une césarienne vous coûte entre 500 et 1500 euros supplémentaires. Le prix à payer pour minimiser la douleur, selon de nombreuses femmes qui en font la demande. À ce tarif-là, les médecins ne résistent pas longtemps aux pressions. Pourtant, un gynécologue chypriote, le docteur Mavrides, s'élève contre la banalisation des césariennes. Les accouchements par césarienne ne représentent qu'un quart des naissances dans sa clinique. Certes, accoucher dans son établissement de standing, situé en plein cœur de la capitale, coûtera à la future maman 3 500 euros minimum. Mais la clinique ne désemplit pas. 500 accouchements par an, c'est 5% de l'ensemble du pays.
De nombreuses idées fausses sont véhiculées pour justifier une césarienne. Par exemple, on fait croire aux femmes myopes que c'est indispensable, alors qu'il n'y a aucune preuve médicale sérieuse. Le cordon autour du cou, un gros bébé, un déclenchement précoce, toutes ces complications se terminent chez nous en césarienne, alors que ce n'est pas le cas dans d'autres pays. Que l'on ne se méprenne pas, il existe bien des cas où l'opération est nécessaire, mais ça représente un petit pourcentage.
Pour comprendre le taux de césarienne si élevé, 65% dans le privé, direction Ngomi, la banlieue chic de Nicosie, sur une petite colline est installé le plus grand hôpital privé du pays. Le docteur Antoniades tente de justifier sa pratique.
Les naissances avec des pinces ou des ventouses, c'est fini. Si le bébé est en détresse, on préfère la césarienne. Pour les grossesses jumellaires, c'est pareil. Jamais je ne ferai naître des jumeaux par voie basse.
Mais au-delà des explications médicales, d'autres semblent s'imposer. L'intérêt économique et les questions de commodité, une évidence lorsqu'on franchit la porte de certains hôpitaux, comme le souligne le docteur Mavrides.
Si vous programmez une césarienne, vous aurez juste besoin d'une infirmière et d'une salle d'opération, ce qui se fait deux jours à une heure précise, du lundi au vendredi. C'est prévisible, facile et rentable. Vous n'avez pas de risque d'interrompre vos congés.
Même son de cloche chez la pédiatre Émilie, qui voit défiler les jeunes mamans dans son cabinet et qui veut en finir avec les idées préconçues qu'une césarienne serait moins douloureuse et plus pratique.
C'est simple, une femme qui accouche naturellement, elle peut assez vite se lever, marcher et faire ce qu'elle veut 5 minutes après la naissance. Une maman opérée, elle, aura du mal à faire quoi que ce soit pendant au moins 3 semaines, parfois plus.
D'ailleurs, de plus en plus de jeunes mamans osent parler ouvertement et dire leur regret d'avoir opté pour une intervention. Leurs témoignages sont désormais publiés dans les médias locaux. Le ministère de la Santé a même lancé une campagne d'information pour créer ce qu'il appelle une culture de la naissance par voie naturelle.
Bu Refani, sen kimsin ki hatununa el kaldırırsın?
Ama kadı efendi,
sus!
Et nous partons maintenant au nord de Chypre, en Turquie, pour un sujet là encore consacré aux femmes. Des femmes victimes de violences, notamment conjugales. Pour en parler avec nous, Anne Andauer à Istanbul. Bonjour Anne.
Bonjour Laurent.
Alors les violences conjugales, des violences souvent cachées derrière les murs, mais en même temps plutôt visibles dans les séries télévisées turques, l'objet de votre chronique Anne.
Oui, ces séries sont omniprésentes sur les écrans puisque des dizaines d'entre elles, et je parle bien de séries locales, sont diffusées et rediffusées tous les jours par les chaînes. Mais quand on s'y intéresse un peu, on est assez vite étonné par la fréquence des violences dont les personnages féminins sont victimes, de la part de leurs partenaires masculins en particulier.
Alors en effet, Anne, les femmes dans ces séries n'ont pas souvent le beau rôle.
Une adolescente de 15 ans forcée d'épouser un homme de 70, une autre de 16 ans mariée par sa famille dans la précipitation parce qu'il découvre qu'elle n'est plus vierge, un frère qui frappe sa sœur parce qu'elle a un petit ami, un homme qui viole sa petite amie, qui tombe enceinte et se retrouve battue par son père cette fois à cause de sa grossesse. Les exemples abondent dans les scénarios, y compris d'ailleurs dans les scénarios des séries qui s'exportent le plus. Par exemple, dans « Quel est le crime de Fatma Gül ?», une série dont les 2 saisons ont été diffusées dans une 20aine de pays du monde arabo-musulman et d'Europe de l'Est, toute l'intrigue est construite sur l'histoire d'une jeune femme, Fatma Gül, victime d'un viol collectif, forcée d'épouser un homme qui a assisté au viol sans rien faire et dont elle tombera finalement amoureuse.
Des scénarios somme toute assez réalistes puisque selon plusieurs sondages, une femme sur 4 en Turquie se dit victime de violences physiques et ou sexuelles.
Réaliste, oui, mais la question est de savoir si en s'inspirant de la réalité, les scénaristes de séries la condamnent ou au contraire s'il la banalise, voire l'encourage. Le débat est récurrent, mais il a refait surface ces dernières semaines après la tentative de viol et le meurtre, particulièrement sauvage, d'une étudiante par un chauffeur de minibus à Mersin, dans le sud de la Turquie. Les chercheurs que la question intéresse s'attardent moins sur la fréquence des violences contre les personnages féminins que sur les réactions que ces violences suscitent chez les autres personnages. Dans un article universitaire publié il y a 5 ans, 4 chercheurs montraient déjà comment une femme au moins était victime de violences dans presque toutes les séries turques. Ils montraient surtout que 52% des autres personnages approuvaient ces violences et que 97% des auteurs restaient impunis.
Oui, en effet, c'est un problème, surtout lorsqu'on sait que des millions de Turcs, des femmes surtout, regardent ces séries tous les jours. Alors, est-ce que ce débat grandissant sur le rôle des séries se traduit dans les scénarios des épisodes les plus récents ?
Oui, alors rien de révolutionnaire, mais ces derniers mois, en particulier depuis que le gouvernement a fait des violences contre les femmes une priorité nationale, dit-il, on sent un nouveau discours émerger dans les séries. Voire même, sur certaines chaînes proches du gouvernement, la volonté à peine voilée de diffuser un message. Dans un épisode de « Argent sale et amour » diffusé sur ATV fin février, on voit une mère sermonner son fils violent en souhaitant que ses mains soient brisées, qui est une formule courante ces temps-ci chez le Premier ministre et le Président turc pour dénoncer les violences contre les femmes. Dans une autre série diffusée en mars par ATV, le Lézard, C'est un imam qui enjoint les fidèles à ne pas lever la main sur les femmes. Et sur la chaîne publique TRT1, il y a 15 jours, c'est un juge ottoman de la série La Carabine, une série d'époque, qui fait emprisonner un mari violent et livre un sermon public. Une mère, un imam, un juge ottoman, autant de figures symboliques, d'autorité dans la société turque, que les scénaristes jugent bon d'utiliser pour faire passer le message.
Merci Anne Andlauer, à très bientôt sur Accent d'Europe.
À bientôt, au revoir.
Depuis 5 ans, plusieurs familles roms cultivent leur potager en plein cœur de Montreuil, aux portes de Paris. De quoi redonner espoir à ces anciens agriculteurs roumains qui partagent de temps à autre leurs légumes avec les habitants lors de repas de quartier. L'association Ecodrome, à l'origine du projet, espère ainsi favoriser leur intégration et surtout améliorer leurs conditions de vie. Les roms jardiniers de Montreuil, c'est un reportage de Cécile Leclerc.
J'ai 12 mai déjà planté la semence.
Et il y a quoi ?
Des choux, des tomates, des oignons, c'est tout. Hein. Regarde, ces choux déjà, c'est...
Il y a déjà des pousses vertes.
Oui, déjà des...
Florine montre fièrement sa serre installée sur le terrain de la ferme Moultou en plein cœur de Montreuil. En France, depuis 8 ans, ce rhum n'a pu vivre d'abord qu'en faisant la manche dans la rue. Mais depuis 5 ans, il vient tous les jours entretenir son petit potager et son poulailler avec 9 autres amis roms. L'occasion pour lui de se sentir utile et de subvenir à ses propres besoins en termes d'alimentation. Tel était l'objectif premier d'Ecodrome. L'association a vu le jour en 2010 sous l'impulsion de Colette Lepage, habitante de Montreuil. C'est en découvrant les roms qui vivaient sur le talus de l'autoroute juste en face de chez elle qu'elle a eu l'idée de leur venir en aide. Comme tous provenaient de la région agricole d'Arad en Roumanie, l'idée a germé.
Je parlais d'agriculture avec les familles qui étaient donc en face de chez moi, dans des cabanes. J'ai vu qu'ils s'y connaissaient. Et je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut faire, quoi. Il faut faire pousser des légumes. Au moins, comme ça, on se sent un peu attaché à la terre d'accueil. Et quand on fait pousser des légumes ou des fleurs, c'est un autre regard soudain qui se manifeste de la part des riverains.
Et pour cause, chaque été, les roms d'Ecodrome participent à des fêtes de quartier et partagent des repas avec les habitants. Au menu, des spécialités culinaires roumaines comme les sarmalés à base de choux, qui proviennent du potager bien sûr. Mais l'aide d'Ecodrome ne s'arrête pas au jardinage. Il y a aussi le suivi social, scolaire, médical, juridique. Colette Lepage.
On cherche des structures adaptées pour les cours de français, l'inscription à l'école, l'inscription à la cantine, le quotient familial, s'inscrire aux impôts quand même, pour être dans les clous, on ne sait jamais. C'est ça, le plus gros boulot, c'est ça.
Sans oublier les menaces d'expulsion. Depuis 3 ans, Florine et les autres roms de la ferme Moultou vivent dans des petites maisons dans le quartier de la Boissière. Ecodrome a réussi à obtenir des baux d'occupation précaires à but humanitaire, ce qui signifie que la mairie peut expulser les familles avec un préavis de 3 mois. L'association a également négocié un tel bail pour une autre communauté de roms qui vit, elle, près de l'autoroute Rurony. Ici aussi, grâce à Ecodrome, les 5 familles cultivent leur potager planté au cœur de leur campement, une sorte de bidonville fait de cabanes en bois. Pour améliorer les conditions de vie des Roms, Ecodrome a fait appel à l'association 14, composée de jeunes architectes. Ils ont mis en place l'an dernier des douches et des toilettes dans le campement. Ça a changé la vie de la communauté, pense Alex, le chef Rom du village.
Maintenant, on a des toilettes normales, on a des douches, donc c'est bien, c'est beaucoup mieux. Donc, grâce à nos amis, parce qu'on vit un peu mieux, comme on voit en 2010-2011.
Mais l'avenir n'est pas sûr. Pour autant, à terme, la ville de Montreuil souhaite construire un tramway près de la rue de Rony. Et le bail négocié par Ecodrome est précaire. La mairie s'en défend. Elle ne peut faire de baux définitifs pour des campements roms. Claude Reznik, adjoint au maire chargé des populations migrantes.
C'est un risque qui est pris par la municipalité d'héberger provisoirement une forme de tolérance, le fait qu'ils puissent survivre dans des conditions indignes, certes, mais les loger, les prendre en charge, c'était plus possible après la mousse.
La mousse, c'est un programme d'aide aux familles roms financé par les collectivités locales et l'État français. Entre 2010 et 2014, la ville de Montreuil a ainsi pris en charge 350 roms en leur trouvant un logement et en les aidant sur le plan de l'accès aux soins et au travail. Crise oblige, la mairie ne peut pas relancer un tel programme. À demi-mot, Claude Reznik reconnaît que le rôle des associations comme Ecodrome est primordial pour le suivi social des roms. Même si elle est parfois découragée face à l'ampleur de la tâche, Colette Lepage croit en son projet.
Ça permet de sortir du ghetto, quoi. C'est ce qu'il dit souvent, de rencontrer d'autres gens. C'est de l'échange, voilà, c'est surtout le lien social que ça a permis.
Elle en est persuadée, la mise en place des potagers a permis de faire un peu bouger les choses.
Le reportage de Cécile Leclerc. Pas sûr que les légumes servis dans les cantines scolaires tchèques proviennent de petits potagers. Au menu, des plats pas très ragoûtants. Le sujet fait à nouveau débat après la mise en ligne par des élèves de photos de leur assiette. À Prague, Alexis Rosenzweig.
De la sauce blanche ressemblant vaguement à de la béchamel, quelques petits pois et des grosses quenelles de mie de pain, une tortilla qui n'a de tortilla que le nom, avec une sauce rose fluo, ou un mélange oignon, jambon, poivron qui donne des haut-le-cœur au premier coup d'œil. Ce sont quelques-uns des clichés pris à la cantine par Sébastien avec son copain Otakar, deux collégiens de 12 ans qui les ont diffusés sur les réseaux sociaux. Très vite, ces photos ont été vues par des milliers de personnes dans leur ville de Brno et dans le reste du pays. La chef cuisinière s'est d'abord défendue en affirmant qu'elles avaient été trafiquées et que les bambins avaient arrangé le contenu des assiettes avant de les photographier. Le maire de l'arrondissement est même monté au créneau pour défendre les cuistots avant de se rétracter et de promouvoir une alimentation plus saine. La presse a fait ses choux gras très gras de cette histoire. L'hebdomadaire Respect indique que les deux garçons ont initié un débat qui pourrait à terme faire évoluer les standards de la restauration dans les cantines scolaires. L'alimentation équilibrée des enfants est un sujet de préoccupation récurrent ces dernières années. Les problèmes de surpoids et d'obésité chez les jeunes tchèques viennent de pousser les parlementaires à adopter une loi interdisant entre autres les distributeurs de limonade et autres sucreries dans les établissements scolaires. Sébastien semble avoir quant à lui déjà trouvé sa voie. Il veut créer son blog et devenir critique gastronomique.
Après un bon petit resto, une bonne nuit à l'hôtel en Bulgarie, un hôtel à part. Nous sommes dans un tout petit village à une centaine de kilomètres de Sofia. Damian Vodenicharov a passé la nuit au bon coin tranquille.
Niché dans un village de 1500 habitants à Sklokoštica, non loin d'une forteresse antique et des montagnes d'Osogovo, le coin tranquille, Tihiatkut, mérite bien son nom. Pour accéder aux chambres, il faut d'abord passer par le restaurant. On y est accueilli par une citerne en métal transformée en cheminée. Derrière elle, une énorme table suspendue. Le propriétaire Petar Petrouchev explique que c'était en fait un couvercle de tonneaux gigantesques. L'hôtel n'a d'ailleurs rien à envier au restaurant. Petar aime faire visiter la propriété à ses clients. Toutes ces chambres sont différentes et ont leur propre nom. Bedrock est inspiré du dessin animé des pierres à feu, les Flintstones. Les murs sont recouverts de grosses pierres angulaires. Quant à Frank's Room, l'hommage est rendu à Sinatra. Des notes de musique sont inscrites sur les murs et le plafond, avec un lit et une armoire rappelant l'âge d'or d'Hollywood. Ou encore Rome, dont le lit est encadré par des colonnes et un fronton romain. Tout est fait à la main, souvent par Petar lui-même, qui restaure ou détourne d'anciens meubles.
Là où se trouve le restaurant, c'était une grange avant. Nous l'avons démolie pour ne garder que les poutres. Ça fait plaisir de redonner une seconde vie à d'anciens meubles que la plupart des gens jetteraient à la poubelle. De nos jours, il faut savoir être original pour se démarquer de la concurrence.
Les différents pétards les jusqu'au bout. La cerise sur le gâteau, ou plutôt le noyau de cerise, c'est le chauffage. Un brin écolo, un brin malin, pétard ne se chauffe qu'au noyau de fruits. Et ça marche.
C'est très facile à conserver et c'est plus riche en énergie que les autres combustibles. Avec 30-40 tonnes de noyaux pour l'hiver, j'arrive à chauffer 800 mètres carrés et à avoir environ 600 litres d'eau chaude. Je rêvais de cette indépendance énergétique.
Le coin tranquille est encore loin d'être fini. Petar fait des travaux pour élargir les terrasses et aménager une salle de sport. Et il tient compte de l'avis des clients. C'est aussi pour ne pas les décevoir qu'il ne veut pas aller trop vite. Pas question alors de prendre des crédits pour agrandir l'hôtel.
Et c'est la fin d'Accent Europe, une émission réalisée et mise en onde par Françoise Grelot. On se retrouve dès demain à 12h40, temps universel, et tout de suite sur les pages RFI, Facebook et Twitter d'Accent Europe.